Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Alexandre Moranville-Ouellet.
Cube Radio.
Incorruptible défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet.
Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Plusieurs opérations policières ce matin retiennent l'attention. Tout d'abord, une vaste opération des forces policières en ce moment en cours dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Un grand quadrilatère qui a été dressé entre le boulevard métropolitain, l'avenue Marien, le boulevard Henri-Bourassa et l'avenue Broadway. Tout ça, je l'ai dit, dans le secteur de Pointe-aux-Trembles. On dit que c'est en lien avec des coups de feu. Donc, il y aurait possiblement quelqu'un d'armé dans le coin qu'on tente d'appréhender. Peu d'informations filtrées à date du côté du SPVM. Il va falloir donc suivre ce dossier tout au long de l'avant-midi en espérant que ça se règle rapidement et sans violence. L'autre intervention policière dont je vous parlais, c'est cette chasse à l'homme qui se déroule toujours dans le Bas-Saint-Laurent. Jérôme-Vincent Vaillancourt, recherché pour liberté illégale, qui se serait échappé lors d'un transfert, d'une sortie du centre de détention, a brisé ses conditions. Il pourrait être armé et dangereux. On l'a vu mercredi, ou plutôt on l'aurait vu au volant d'une voiture volée. Bref, il pourrait être très, très loin. Nouveau-Brunswick, ailleurs au Québec. Si vous voyez l'homme qui correspond à cette description-là, 6 pieds 5 pouces, des cheveux châtains, des yeux bleus, a des tatouages tribaux sur les bras, ne l'approchez pas et appelez la police. Communiquez avec la SQ. Donc, une autre opération policière qui est en cours, celle-là, elle dure déjà depuis plusieurs jours. Une autre opération qui s'est déroulée hier, mais cette fois-ci de l'autre côté de la frontière. Je parle bien aux États-Unis, en Ohio, à Cincinnati. Un homme armé qui a tenté d'entrer dans les bureaux du FBI. Il était armé, il avait entre autres un fusil le semi-automatique de type AR-15 qu'on retrouve souvent dans la plupart des fusillades aux États-Unis. Il avait un fusil à clous, une veste pare-balles. Il a tenté d'entrer dans les bureaux du FBI. Il y a des agents qui sont arrivés. Il y a une chasse en voiture qui s'est poursuivie jusque dans un champ de maïs où, finalement, après avoir tenté de négocier avec l'homme pour qu'il baisse les armes, il aurait pointé ses armes à feu sur les agents de la paix qui ont, en retour, fait feu sur lui. Son décès a été constaté sur place. Pourquoi on vous parle de cette intervention-là? Parce qu'il y en a des décès par arme à feu aux États-Unis dans une journée, dans une semaine, dans un mois. Le total est toujours ahurissant dans ce pays-là. On vous en parle parce que ça fait suite, tout ça, à la perquisition qui s'est déroulée chez Donald Trump, l'ancien président américain, lundi. Cette perquisition-là du FBI a semé la colère dans les milieux de droite, d'extrême droite, surtout aux États-Unis. Déjà qu'on accuse les démocrates de toutes sortes de mots, les théories du complot qui se multiplient là, sur la chose constamment. Eh bien, dans ce cas-ci, il y a beaucoup de ces gens de milieu de droite qui croient que Donald Trump se fait harceler par le FBI, voire que le FBI aurait planté des preuves chez lui pour justifier une arrestation. C'est pure fabrication, bien évidemment, et l'ex-président est le premier à répandre ces rumeurs-là sur les réseaux sociaux. Mais ça reste que ça attise la flamme chez les gens des milieux d'extrême droite. Je lis des menaces sur certains forums depuis lundi. Il y a le ministre de la Justice là des États-Unis qui a reçu toutes sortes de menaces déjà de mort. Le directeur du FBI aussi. Et donc, même s'il est trop tôt pour dresser un lien clair entre cet homme-là qui a tenté d'entrer dans un bureau du FBI et la perquisition de lundi, mais NBC a rapporté que selon trois personnes différentes impliquées dans l'incident, le suspect aurait été vu sur des photos à l'insurrection du 6 janvier au Capitole. Donc, serait un ardent partisan de Donald Trump, selon ce qu'on peut voir. Aurait peut-être, c'est pas clair encore, pénétré même le Capitole. Bref, il n'y a pas de lien absolument certain. Mais si on suit les petites miettes de pain à terre, on peut voir qu'il y a un certain lien entre tout ça. Bref, on peut voir qu'il y a des événements de violence qui peuvent être soulevés par les propos comme ça de l'ancien président. Il n'a beau plus être au pouvoir, il continue de rester une menace pour la démocratie américaine. Sinon, on revient ici au Québec, un dossier qui est suivi depuis le début de l'année, des revendications qui ont été faites, entre autres, par le Parti libéral du Québec, le Parti québécois, par rapport à notre eau potable ici au Québec. On a demandé là une révision à la hausse de la tarification de l'utilisation de l'eau qui est pompée ici au Québec par toutes sortes de compagnies, Amaro, Pepsi, Coca-Cola, Esca, Naya. On en passe, hein? On a 3% des réserves d'eau potable mondiale ici dans la province. Et c'est pas pour rien qu'il y a bien des entreprises qui viennent la pomper. Sauf que on n'a aucune idée des volumes d'eau précis qui sont pompés par ces entreprises-là. Tout ça en même temps où en Europe, par exemple, certains pays comme la France, l'Angleterre sont pris avec des sécheresses monumentales, des pénuries d'eau potable, et ça pourrait même affecter ici certaines municipalités du Québec. Et ça en affecte déjà. Une des MRC qui est très affectée, c'est celle de Vaudreuil-Soulanges. Geneviève Lachance est mairesse de Saint-Lazare, qui fait partie donc de cette MRC et est membre de la table de l'eau de la MRC Vaudreuil-Soulanges. Bonjour, Madame Lachance.
Bonjour.
Vous avez fait une demande au gouvernement Legault. Quelle est cette demande, précisément?
Bien, la demande qu'on fait au gouvernement, c'est d'être un exemple dans la saine gestion de nos ressources en eau potable et de changer la loi pour reconnaître justement que les données qui viennent des prélèvements d'eau soient publiques. Parce que présentement, c'est des données, comme vous dites, qui sont secrètes. On n'a aucunement façon de savoir combien les embouteilleurs prélèvent des eaux souterraines.
Aucun moyen de le savoir. Et vous, j'en parlais un tout petit peu, mais peut-être que vous pouvez m'éclairer davantage là. Vous avez des problèmes d'approvisionnement en eau ici. Là, on est au Québec, on est censé avoir de l'eau potable là, en grande quantité. Pourtant, dans votre MRC, particulièrement à Saint-Lazare, votre municipalité, il y a des problèmes d'eau potable parfois.
Mais oui, on suit de près justement les nappes phréatiques, les nouveaux nappes. Parce que on s'approvisionne de l'eau souterraine, 100% de l'eau est pris de la terre. Alors, c'est très important de garder l'œil sur les niveaux de nappe et de connaître les données précises pour savoir tout ce qu'on a à faire pour protéger la ressource, parce qu'une fois qu'une nappe est asséchée, mais on peut plus vraiment remédier à la situation. Fait que si on veut pas avoir des pénuries d'eau potable, c'est très important là d'être proactif.
Mais je reformule la question. Vous avez, vous, déjà des problèmes d'approvisionnement d'eau potable? Ça arrive parfois dans l'année?
Dans les deux dernières années, on a eu des restrictions complètes d'arrosage extérieur parce que justement nos nouveaux nappes étaient très basses. C'est dû grandement au changement climatique, aux sécheresses qu'on a eues. Un peu, on l'entend, ce qui arrive en Europe, ben ça pourrait arriver ici au Canada, au Québec. Alors oui, les dernières années, on a eu des problématiques à cause de ça et la surconsommation aussi.
Avez-vous eu des réponses, des échos à date du gouvernement vis-à-vis de vos demandes?
Non, pas pour l'instant. On n'a rien eu depuis qu'on a passé la résolution au mois de juin.
Oh, donc ça fait quand même un bout que vous êtes sans réponse. Est-ce que, outre que le gouvernement provincial, vous avez eu des réponses, des appuis ailleurs? Est-ce qu'il y a des organisations qui ont décidé de vous appuyer dans vos démarches?
On demande l'appui de la SQM et de l'UMQ, ainsi que tous les autres municipalités du Québec. S'ils pouvaient passer une résolution et faire un appui, ça serait vraiment extraordinaire, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est une problématique qui est quand même répandue au Québec. On a quand même plusieurs villes qui s'approvisionnent de l'eau souterraine. Alors, ça serait important, mais non, on n'a pas eu encore là, de support de d'autres organismes.
Non, puis même du côté des municipalités, l'UMQ, la Fédération québécoise des municipalités, est-ce qu'ils sont dans le même sens que vous? Est-ce qu'ils abondent dans le même sens?
On attend des réponses. C'est sûr qu'on est en période de vacances, fait que c'est un petit peu plus tranquille, mais d'ici l'automne, il devrait avoir des suivis de fait.
Comme je le disais plus tôt, un peu, il y a le Parti libéral, le Parti québécois, qui, eux, ont déjà réclamé une révision à la hausse de la tarification pour l'utilisation de l'eau. Hein, il n'a pas changé depuis 2010. Outre les dévoiler la quantité d'eau qui est pompée, pensez-vous qu'on devrait aussi augmenter cette tarification sur l'eau?
Ben, clairement, il y a des coûts associés avec le prélèvement des eaux souterraines de l'exploitation qu'ils font. Alors oui, on peut, même si on se compare avec les autres provinces et les autres pays, clairement on voit qu'on n'est pas on est sous les niveaux de redevances. Mais en plus, les redevances reviennent pas aux villes. Fait que c'est sûr que on exigerait aussi qu'il y ait une redevance qui soit envoyée directement aux villes pour aider à financer tous les impacts que ça peut causer là, pour quand on parle de faire un nouveau puits ou remédier à des situations comme on peut penser, je sais, Saint-Lin, des Laurentides, où est-ce qu'ils ont de la difficulté avec leur eau potable. Ben, il faut être capable de financer ces travaux-là. Alors, des redevances données directement aux municipalités seraient vraiment souhaitables.
OK, des redevances, donc, directement à partir des entreprises ou le gouvernement, dans le modèle que vous auriez, reprendrait l'argent, le redistribuerait. Puis, est-ce que ça irait, je suis votre idée un tout petit peu, est-ce que ça irait par nappe phréatique, par exemple, les municipalités qui utilisent X nappe phréatique serait dédommagé si une entreprise vient puiser dans celle-là précisément? C'est ce que vous avez en tête?
Ben, si on a des entreprises sur le territoire qui utilisent l'eau souterraine à fin commerciale, les redevances devraient être payées directement aux municipalités.
Geneviève Lachance, mairesse Saint-Lazare, membre de la table de l'eau de la MRC Vaudreuil-Soulanges. On entend vos demandes par rapport au prélèvement des eaux en espérant que le gouvernement vous entendra aussi là-dessus. Je vous avoue que j'ai plusieurs questions également sur notre ressource qui est de plus en plus précieuse et qui se fait puiser. Merci, Madame Lachance.
Merci. Bonjour.
Madame Lachance avait un bon point. Hein? Je veux juste le rappeler pour nos auditeurs, auditrices. En 2018, là, on parlait d'à peu près 2 milliards de litres d'eau embouteillés au Québec. Ça rapportait moins de 150 000 piastres, 150 000 $ au gouvernement québécois. Par rapport à ça, l'Ontario, par exemple, eux, c'est 23 millions de $ qu'ils ont fait sur l'eau qui a été puisée. Hein, notre redevance de base, taux de redevance de base ici au Québec, 2,50 $ par million de litres d'eau qui est puisée. OK, pour les bouteilles d'eau, 70 $ par million de litres d'eau. 2,50. Je le répète, 2,50 par million de litres d'eau qui est pompée ici au Québec. Une ressource qui est indispensable pour la vie et qui est de plus en plus rarissime dans le monde. L'Italie, eux, c'est 2000 $ par million de litres, par exemple. Danemark, 10 000 $ par million de litres. Nous, je le répète, 2,50.